Alléluia, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver après ces petites périodes de vacances. On va partager la parole de Dieu. Je vous propose qu'on prie avant ce temps. Seigneur, nous te remercions pour ce moment qu'on va encore passer dans ta parole. Merci Seigneur de venir guider ce moment, de venir déposer dans les cœurs ta parole qui rafraîchit, ta parole qui construit, ta parole qui nous encourage, Seigneur. Merci Seigneur de bénir tout ce qui va être donné et d'apporter dans les cœurs la consolation ce matin. Amen. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « Qui tient le volant de ma vie ?» Alors je dois vous avouer que ce titre m'a été inspiré un peu par ce que je vis en ce moment, parce que j'ai trois femmes à la maison qui sont en train plus ou moins de passer leur permis. Donc c'est une grande aventure, hein, mais ça avance. Donc, qui tient le volant de ma vie? Je pense qu'aujourd'hui, si on irait dans la rue, on poserait cette question à des personnes et nous dirait évidemment, moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui conduis ma vie. Et c'est justement la raison de beaucoup de problèmes. Parce que l'homme pense pouvoir conduire sa vie comme on conduit une voiture. Il pense qu'il peut choisir la direction, il pense qu'il peut décider quand accélérer, quand ralentir. Quand tourner, il pense que c'est ses projets qui sont bons, ses envies, ses priorités à lui. Et même si nous marchons avec Jésus, nous qui sommes ici ce matin, il peut nous arriver régulièrement de ne lui donner seulement que la place de passager. Nous invitons Jésus à monter dans notre voiture, mais nous gardons quand même le volant. On lui demande de nous accompagner. On lui demande de nous protéger, de bénir nos projets. On lui demande de nous aider lorsque nous sommes dans les difficultés. Mais quand Jésus va nous dire, vas-y, ici, il faut tourner à gauche. Ah, là, on va répondre, Seigneur, je préfère continuer tout droit. Quand il va nous dire, arrête-toi là, stop. On va répondre, mais j'ai le droit de continuer. Et quand il nous demande de renoncer à quelque chose, Seigneur, pourquoi faudrait-il que je renonce à cela aujourd'hui. Nous voulons Jésus dans notre vie, mais nous voulons rester souvent conducteurs de notre vie. On veut rester les mains sur le volant et pas lui laisser le volant. Et Jésus, vous savez, c'est un gentleman, il ne va pas s'imposer à nous. Il fait les choses avec nous. Il fait les choses quand on dit oui. Et Jésus ne l'a pas dit simplement, voilà, je suis là si tu as besoin de moi. Jésus l'a dit, suivez-moi. Quand il a appelé les disciples, il a dit, suivez-moi. Il n'a pas dit, je vais vous accompagner, vous allez. Il a dit, suivez-moi. C'est moi qui donne la direction. Et je ne sais pas si vous avez déjà joué à la bonne paye. Dans la bonne paye, il y a une carte qui s'appelle en cas de besoin. Et j'ai l'impression que Jésus, un peu, c'est cette carte des fois, en cas de besoin. Ouais, je vais appeler Jésus quand j'ai besoin. Je vais appeler Jésus quand j'ai eu un accident, quand j'ai un pneu crevé. Ouais, là, il va m'aider, il est à côté de moi, il est passager, on est ensemble dans la voiture. Ce n'est pas ça, en fait. Jésus, ce n'est pas en cas de besoin. Hein. Ce n'est pas l'assurance. On pense pouvoir conduire notre vie comme cela, avec Jésus à côté, mais Jésus, il veut plus que ça. Il nous dit, suivez-moi. Et quand on suit quelqu'un, eh bien, c'est cette personne qui va donner la direction, celle qui va décider de là où on va aller. Je vais vous donner un verset très clair qu'on va voir ce matin ensemble dans Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez la puissance de ces paroles que Jésus donne, ça ne laisse pas de se dire, bah oui, c'est lui qui doit me suivre, c'est nous qui devons le suivre. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les paroles de Jésus, elles sont claires. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ce que ça veut dire et comment lâcher le volant, justement. Alors j'aimerais m'intéresser d'abord à l'expression « se charger chaque jour de sa croix ». Alors, dans le langage populaire, se charger, porter sa croix, ça a pris une connotation différente de celle de la Bible. Porter sa croix, pour beaucoup aujourd'hui, ça veut dire « Ouais, j'ai beaucoup de souffrance, je vis des maladies, je vis une situation difficile. C'est ma croix et je dois la porter. » Vous avez déjà entendu des gens qui pensent comme ça. C'est ma croix, c'est mon poids à moi, c'est mon fardeau à moi et je dois le porter. Et cette pensée-là fait beaucoup de mal. Cette expression, elle ne veut pas dire que on doit rester dans une résignation face à ce que nous vivons. Cette pensée-là de dire porter sa croix comme ça, ça veut dire qu'on est dans le fatalisme. On va accepter des choses duquel Jésus veut nous délivrer, en fait. C'est triste, parce qu'on se dit, oui, c'est mon fardeau, et on ne laisse pas Dieu agir dans nos vies. On ne le laisse pas nous libérer de ce fardeau. Donc, c'est un mensonge. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'il ne faut le comprendre. Et vous savez que pousser à l'extrême, cette expression « porter sa croix », elle va donner lieu à toutes sortes d'hérésies, notamment les gens qui vont se flageller, vous savez, se faire du mal, souffrir physiquement pour croire expier leurs péchés ou croire se rapprocher de Dieu. Et on ne peut pas s'infliger volontairement des épreuves pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc il y a toutes ces choses-là durant les siècles où l'homme va essayer de s'infliger des choses pour plaire à Dieu. Et même nous, on peut avoir par exemple une mauvaise pratique du jeûne, le jeûne, en disant, ben voilà, je jeûne, donc je souffre pour Dieu, donc je plais plus à Dieu, donc là, il va pardonner mes fautes. Ce n'est pas ça le jeûne biblique. Hein. Le jeûne biblique, c'est prendre du temps avec Dieu, c'est se détacher de la nourriture, par exemple, de la boisson, mais pour prendre du temps avec Dieu, pour être à l'écoute de Dieu. Ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu pour obtenir quelque chose de lui. Un père, est-ce qu'il aimerait plus son fils parce qu'il s'inflige des souffrances ? Non. Dieu n'est pas un tyran dans ce sens-là. La doctrine du purgatoire, par exemple, vous connaissez la doctrine du purgatoire, c'est basé sur la même déviance, c'est dire que nos souffrances, on va nous mettre dans un lieu, Dieu va nous mettre dans un lieu où mes souffrances vont me permettre d'expier mes fautes. C'est grave. C'est une insulte au sacrifice de Jésus. Je rappelle, le purgatoire n'existe pas. C'est une hérésie, c'est une insulte à l'œuvre de Christ. Le purgatoire est un mensonge. Une fois qu'on quitte cette terre, il y a deux endroits. Hein. C'est tout. Hein. Et ça se décide aujourd'hui. Celui qui est attaché à Christ ou celui qui n'est pas attaché. Mais il n'y a pas de purgatoire. Ceci n'a rien à voir avec l'Évangile. Nos souffrances, quelles qu'elles soient, ne peuvent nous rapprocher de Dieu, ne nous apportent aucun mérite. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent « Oh, celui-là, il a tellement souffert, il mérite vraiment son paradis. » Non, c'est des bêtises aussi. Ce n'est pas l'Évangile. Sinon, Jésus, ben, il ne serait pas venu pour payer pour nous si on pouvait payer par nos souffrances à nous. Le psaume 49,7 nous dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Aucun homme ne peut, par quoi que ce soit, racheter son âme. Seul le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix peut racheter notre âme. C'est la seule façon d'être justifié, d'être pardonné, d'être enfant de Dieu. Il est le seul chemin. Un seul a souffert pour nous une fois pour toutes. Un seul est mort pour nos péchés, c'est Jésus. 1 Pierre 3,18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Donc les souffrances que nous pouvons vivre ne sont pas un passe-droit, elles n'attirent pas la bénédiction particulière de Dieu. La souffrance dans nos vies peut être une conséquence de ce monde déchu, peut être une conséquence du péché des autres, peut être une conséquence de mon propre péché. La souffrance peut être aussi une conséquence de mes choix en tant que disciple de Jésus, évidemment, puisque je vais prendre des choix qui vont être à l'encontre de ce monde et je peux souffrir aussi à cause de cela. Mais la souffrance ne doit jamais être recherchée volontairement. Quand donc Jésus mentionne de porter sa croix, ce n'est certainement pas une exhortation à rechercher la souffrance et à s'y résigner. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus ? On va prendre une autre parole de Jésus dans Jean 12, au verset 24, qui va nous donner une image très simple pour nous aider à comprendre. Jean 12, 24, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus, dans ce passage, il nous parle d'un simple grain de blé, un tout petit grain de blé. Et ce grain, vous savez, qui contient en lui tout ce qu'il faut pour donner la vie, pour se reproduire, pour donner d'autres grains, une autre plante. Mais il y a une condition. Le grain ne peut pas rester tel qu'il est. S'il reste dans un coffre, s'il reste dans un sac, s'il reste dans ma main, je peux le conserver, je peux le protéger, je peux le mettre dans une belle boîte, il ne portera jamais de fruit. Pour qu'il porte du fruit, Jésus nous dit qu'il doit tomber dans la terre. Il doit être enterré, il doit être enfoui. Il doit mourir à ce qu'il était avant, en fait, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, le grain est appelé à mourir pour produire du fruit. Et Jésus nous dit, c'est aussi comme cela que fonctionne la vie de disciple. Il y a une partie de nous qui doit mourir pour que la vie de Christ puisse grandir en nous. Regardez comment Jésus a fait. Il a abandonné sa royauté. Il a mis de côté sa divinité pour descendre faiblement. Il s'est fait serviteur. Toute sa vie, il est mort à lui-même, en fait. Il s'est fait homme. Il s'est fait comparable à nous pour souffrir nos souffrances, pour comprendre notre cœur, pour pouvoir avoir compassion de nous. Il s'est vidé de lui-même, de cette divinité, pour ce temps de la terre. Et puis, il a accepté d'être crucifié. Pourquoi ? Pour donner la vie. Nous tous ici qui sommes ses enfants, qui sommes nés de nouveau, pour apporter cette vie, lui, il a dû mourir avant. Donc, la mort va être obligatoire pour que la vie de Dieu, la vie de Christ, puisse jaillir aussi en nous. Donc, porter sa croix, c'est quoi en fait ? C'est mourir à sa propre vie et décider de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Je décide de ne plus être le centre de ma vie. Et ça, c'est une décision, comme Jésus l'a dit, c'est chaque jour, c'est porter sa croix. La croix, c'est un symbole de mort, en fait, hein, puisqu'on tuait les gens dessus. Donc, ce symbole-là nous dit, chaque jour, tu es amené à mourir à toi-même, à laisser ton ego et à vivre pour Christ. Et c'est là qu'on retrouve cette image que je disais au début, si je veux vraiment suivre Jésus, il faut que je lui laisse le volant. Je ne peux pas dire « Jésus conduit ma vie » tout en gardant fermement les mains sur le volant. Il faut que je lâche ce volant. Et lâcher le volant, c'est ce que Jésus appelle aussi « renoncer à soi-même ». Alléluia. Donc, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mourir à soi, c'est faire germer une vie nouvelle. Donc, il y a aussi le renoncement à nous-mêmes dans ce verset. Jésus dit qu'il renonce à lui-même. Alors là aussi, c'est important de bien comprendre. Quand Jésus nous dit renoncer à nous-mêmes, ça ne veut pas dire que Dieu veut détruire notre personnalité. Ça, c'est un point très important. C'est bien différencier notre personnalité de notre caractère. Notre personnalité, elle est parfaite, c'est Dieu qui nous l'a donnée. On est tous différents, on a des goûts différents, on a une façon de parler différente, on a une façon de faire rire les autres différemment, un humour différent, on a une façon d'aimer différemment. Ça, c'est la personnalité, ce que l'on est. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est parfait. Et puis, il y a aussi notre caractère. Et le caractère, c'est quelque chose que Dieu, lui, veut former. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, quand j'étais petit, puis ensuite ça a continué, j'étais quelqu'un, le matin, de très ronchon. Il ne fallait pas me parler. Je répondais mal. Et mes parents le savaient. Ma maman me disait, « Ah, t'es comme ton oncle, le matin, il ne faut rien te dire. Il faut te laisser. » Et je pensais que ça faisait partie de ma personnalité. Mais non, ce n'est pas la personnalité, ça, c'est le caractère. C'est ce que Dieu veut toucher en moi. Et souvent, on a ce mal à différencier entre le caractère et ma personnalité. Et un mauvais caractère va nuire à notre personnalité, à cette belle personnalité que Jésus va nous donner. Donc, Dieu veut toucher le caractère. Le caractère, pour que la personnalité qui nous a donné puisse jaillir en beauté pour les autres. Donc c'est très important de différencier. Dieu ne veut pas faire de nous des clones. On n'est pas dans une secte où chacun est pareil. Au contraire, on a tous des dons différents, une personnalité différente. C'est ça qui fait la beauté de l'Église. Mais Dieu veut toucher nos caractères. Notre caractère, et notamment si on peut aller globalement dans le caractère, c'est notre rébellion, c'est notre insoumission, c'est notre égoïsme. C'est toujours être le centre de ma vie, le maître de ma propre vie. C'est ça que Dieu veut toucher en nous. Et parfois, nous, on va vouloir imiter les autres et copier leur personnalité, mais pas leur caractère. On ne veut pas toucher à ça. Ça, c'est caché. Et Dieu va en profondeur. On n'a pas à imiter les autres dans leur personnalité. Souvent, les jeunes, c'est comme ça, ils marchent par modèle, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Dieu veut qu'on reste nous-mêmes avec notre personnalité, mais que notre caractère soit renouvelé par le Saint-Esprit. Alors, pendant des années, parfois des dizaines d'années, nous avons conduit notre vie comme nous le pensions bon. Nous avons décidé, nous avons choisi, nous avons fait des choix qui nous semblaient bon, avec lequel on était en accord ou parfois qu'on pensait obligé de faire. Mais lorsque nous venons à Christ, il y a un changement fondamental. Et vous savez, on peut imaginer deux routes parallèles et à tout moment, il y a une passerelle pour aller sur l'autre route. Il y a la route où c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide et il y a la route où c'est Dieu qui va conduire ma vie maintenant. Et Dieu nous permet de reprendre par cette passerelle qu'est Christ le bon chemin pour aller du bon côté, justement. Donc, nous disons maintenant, quand nous sommes dans cette marche sans Dieu, « Seigneur, ma vie t'appartient », nous ne disons plus « Seigneur, viens bénir mes projets », mais « Seigneur, montre-moi tes projets ». Ce n'est plus « Seigneur, je fais ce que je veux », mais « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est différent. Ce n'est plus comment puis-je obtenir ce que je désire. Des fois, on se sert de Dieu comme un distributeur. Mais comment puis-je te servir? Comment puis-je servir mon prochain? Ce n'est plus moi le centre. Je veux que Dieu soit honoré par ma vie. Voilà ce que signifie, en fait, avec ces quelques questions, c'est simplement laisser Jésus prendre le volant. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand on va commencer à faire la volonté de Dieu, on peut se dire, mais alors moi, je ne choisis plus rien. Non, non, non. Plus on va commencer à obéir, à faire la volonté de Dieu, plus on va prendre du plaisir. Et plus on va avoir cette vraie joie. Parce que la vraie joie, elle n'est pas dans faire la volonté de la chair. La vraie joie, le vrai plaisir pour nos vies, c'est de faire la volonté de Dieu. Et au début, on peut en douter. Je sais que c'est... Mais une fois qu'on le met en pratique, je peux vous assurer, plus on fait la volonté de Dieu, plus on se sent épanoui, plus on est en paix. Je vous rappelle ce que Jésus a dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce qui va nourrir mon âme, c'est de chercher la volonté de Dieu et de la mettre en pratique. C'est ça qui va nourrir mon être intérieur. Et beaucoup se sentent faibles parce qu'ils ne laissent pas Dieu conduire leur vie, parce que leur âme n'est pas nourrie. Il y a la parole qui nourrit notre âme, il y a la prière, mais aussi de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu. C'est pas un gros mot, obéir. C'est pas du légalisme. Hein. J'obéis à Dieu parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'aime, parce que je veux l'honorer, parce qu'il est mon Père, parce que je veux que son nom soit élevé dans ma vie. Voilà, changer de direction, trouver la vraie joie. La vraie joie, c'est dans la volonté de Dieu, c'est pas dans la volonté, dans ma propre volonté. La seule voie d'épanouissement, c'est perdre sa vie pour la trouver. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est pas seulement l'histoire de mourir en martyr hein, dans ce verset. Perdre sa vie, ça veut dire, ben voilà, j'abandonne tous mes projets, mon égoïsme, mon égocentrisme pour vivre pour Dieu. C'est une mort à soi-même. Et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ben oui, parce que notre vie, elle sera régénérée. On vivra vraiment la vie que Dieu a prévue pour nous. Vouloir préserver à tout prix le contrôle de sa vie conduit inévitablement à la frustration et à la sécheresse spirituelle. Vous savez, les gens égoïstes sont des gens malheureux. Les gens qui vivent seulement pour eux-mêmes, c'est un abîme de tristesse. Parce que tout tourne autour de soi. Et ça, il n'y a rien de plus terrible. On n'a pas été créé par Dieu pour vivre comme ça. Jésus a donné sa vie pour l'Église, pour qu'on soit ensemble, pour pouvoir aimer son prochain, encourager, écouter, pour qu'on soit ensemble. Et c'est ça qui donne toute la valeur à notre vie. Donc remettre les clés à Jésus garantit une paix et une joie inébranlables et une destination glorieuse. Amen. Alors, on parle souvent aussi dans le même état d'esprit, dans le même ordre d'idée, de la repentance. La repentance, c'est un sujet qu'on aborde notamment lors des préparations baptême. Vous savez, pour qu'une personne vienne à Christ, il y a la foi en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur et il y a la repentance. Et souvent, nous pensons à la repentance comme au fait de reconnaître certains péchés et de décider de les abandonner. C'est vrai. C'est vrai. Quand on vient à Christ, on fait la préparation baptême et on fait ce qu'on appelle toute la liste des gros camions. C'est-à-dire les péchés très visibles. Les péchés qui sont, on va dire, inévitables qu'on sait. Et ces péchés-là, eh bien, il doit y avoir repentance. On ne peut pas baptiser quelqu'un, par exemple, qui veut rester dans l'adultère. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui veut rester dans l'idolâtrie. Ça ne va pas ensemble, vous comprenez. Puisque le baptême est la décision de marcher, est l'affirmation que je veux marcher avec Christ. Donc il y a tous ces gros camions, c'est comme si vous aviez un champ, un pré, hein, et vous vouliez faire cultiver dedans, et il y a des gros cailloux dedans. Il faut commencer par enlever ces gros cailloux. Et nous aussi, on ne veut pas baptiser quelqu'un qui ne veut pas changer ces choses-là. C'est normal, c'est biblique. Donc il y a ce temps de repentance pour le baptême, mais leur repentance, c'est plus qu'un acte. Voilà, un jour, je me suis repenti. Des fois, on dit « je me suis repenti de mes péchés, je me suis fait baptiser ». La repentance, c'est plus entrer maintenant dans un état d'esprit. Dans un processus. La repentance, elle doit m'accompagner toute ma vie. Parce que c'est vrai que j'ai enlevé les gros cailloux au début, là, mais il y a encore des mauvaises herbes, il y a encore du terrain à cultiver. Il y a encore des choses à toucher dans mon caractère. Et ça va, toute notre vie, Dieu va enlever des choses, déraciner pour pouvoir cultiver du bon fruit dans ce jardin. Donc la repentance, elle va plus loin qu'un simple acte à un moment. C'est renoncer à vivre à une vie indépendante de Dieu. C'est prendre justement cet autre chemin. C'est dire, je ne veux plus être mon propre maître. C'est reconnaître que le chemin que j'avais pris est mauvais et que ma manière de conduire ma vie ne m'amène pas là où Dieu veut m'amener. Alors je veux prendre ce nouveau chemin et je lui rends le volant. Ce n'est pas simplement, comme je le disais, une décision le jour de ma conversion, c'est une décision quotidienne. Je veux marcher dans la repentance quotidiennement. C'est une nouvelle mentalité, j'accepte de me laisser reprendre par Dieu, par sa parole, par les pasteurs, par le frère et la sœur qui est à côté de moi, par mon mari, par mon épouse, par mes enfants, j'accepte de me laisser reprendre. Et là, ça fait toute la différence. Bien sûr, je mets ce que je reçois devant Dieu, mais j'ai un cœur enseignable. J'ai un cœur maintenant qui veut écouter. Est-ce que je fais mal, Seigneur ? Qu'est-ce qui est encore à toucher dans mon caractère ? J'accepte de me laisser reprendre pour que mon caractère change et rende gloire à Dieu. Paul a dit dans Romains 6, 12 à 14 que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. Vous voyez, l'action de le faire nous-mêmes, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Le péché n'est plus notre maître. Nous ne sommes plus condamnés à retourner chaque fois dans les mêmes bêtises. Nous ne sommes plus enchaînés par le péché. Nous ne sommes plus condamnés à lui obéir. Mais le péché va encore chercher régulièrement à reprendre le volant. Il va revenir et il va nous murmurer des choses. Reprends le contrôle, défends-toi, fais comme tu veux, tu as le droit, pense à toi. Alors là, ça c'est une pensée actuellement qui est vraiment répandue, de penser à soi, à son bonheur personnel, à, je ne sais plus comment ils appellent tout ça là. Voilà, développement personnel. Vous savez, ça, on voit bien que comment le diable fonctionne, comment il veut isoler chacun. Et nous, nous ne sommes plus dans cet état d'esprit-là. Nous ne sommes plus dans ces pensées-là, de penser simplement à toi. C'est là que le vrai combat va commencer. Quand l'ennemi va commencer à te murmurer ses paroles pour retomber dans ces choses-là qui pourtant n'ont plus d'impact sur toi, non plus cet attachement qu'il avait avant. Mais si on décide de remettre sa main dedans, Dieu nous laisse encore libres. C'est à nous de dire non, stop, maintenant je suis en Christ. J'ai cette capacité de dire non. C'est là que tout se joue, en fait. Alors, on va voir concrètement, parce que là on a parlé un petit peu la mort à soi au quotidien. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Nous devons nous tenir prêts en fait à chaque moment. Parce que chaque jour, à tout moment, nous rencontrons des situations très ordinaires qui sont l'occasion de mourir à nous-mêmes et de laisser Christ grandir en nous. Souvent, on va avoir cette tendance à consulter Christ pour les grandes directions. Là, j'ai un grand choix à faire dans ma vie, alors là, je vais m'adresser à toi. Par contre, pour les petites situations de la vie quotidienne, on va vouloir faire comme on veut. On va vouloir répondre à l'autre comme on veut, réagir comme on veut. Et comment on va écouter Dieu, entendre Dieu, si on n'a pas pris l'habitude de l'écouter et de lui obéir dans les petites choses? Ça va être très compliqué. Il faut commencer par des choses simples. Des choses concrètes où on sait très bien que c'est Dieu qui nous parle. Et là, on va s'habituer à reconnaître sa voix et on va lui obéir. Donc, il va pouvoir nous confier plus de choses. On va être habitué à l'écouter. Quand je parle de petites choses simples, c'est par exemple quand quelqu'un va m'insulter, me dénigrer. Ma première réaction charnelle va être de « il m'a parlé comme ça, il va voir ce qu'il va voir ». Mais le Saint-Esprit va nous dire, ne réponds pas à l'insulte. Et là, mon ego, il va en prendre un coup. Il dit, tac, diminue un peu, je me tais. Je ne rends pas ce qu'on m'a donné. Je refuse d'utiliser les armes de l'ennemi. Et je fais confiance à Dieu. C'est par ces petites choses. Quand quelqu'un me calomnie, quelqu'un déforme mes paroles, quelqu'un m'accuse injustement, quelqu'un raconte des choses fausses sur moi, je voudrais rétablir ma réputation à tout prix. Je voudrais faire tout ce que je peux pour enlever ces mensonges. Mais Dieu me dit simplement, reste fidèle, reste calme, je m'occupe du sujet. Là, je vais mourir encore à ma dignité. Ouais, on a répandu du purin sur moi, mais je fais confiance en Dieu. Et la chair en prend encore un coup. J'écoute Dieu. Vous n'allez pas me dire qu'on n'entend pas Dieu, en fait. Hein. Il y en a, ils disent, ben, j'entends jamais Dieu me parler. Saint-Esprit est là. Dans toutes ces situations, il nous parle. Quand quelqu'un m'a fait du mal, je pourrais garder ma rancune, je pourrais nourrir un ressentiment. Mais Jésus me dit, pardonne, prie pour cette personne. Et là, je meurs à ma rancune. Allez, encore un coup. Et petit à petit, je laisse le volant à Dieu. Quand je suis dans un lieu où je suis privé de mon confort, où on ne fait pas comme je veux, je voudrais que tout soit comme je l'ai décidé. Et ben dans ces moments-là, je peux aussi apprendre à remercier Dieu dans toutes les circonstances. C'est merveilleux, hein, les occasions que Dieu nous donne. Je découvre alors que ma joie ne dépend pas seulement de mon confort ou si on fait tout ce que je veux. Je meurs à mon bien-être, à mon besoin d'être constamment dans le confort. Et je vois combien Dieu est tout pour moi. Quand quelqu'un d'autre est béni avant moi, cela peut être difficile, quelqu'un qui vient d'arriver, jeune chrétien, moi je prie depuis des années pour ça, et lui il l'obtient tout de suite. Eh bien, en Christ, je peux me réjouir pour cette personne. Je vois quelqu'un arriver après moi, être béni avant moi. Alléluia! Merci Seigneur pour mon frère ou ma sœur qui a été béni. Dieu nous donne cette capacité de se réjouir sincèrement pour notre prochain, si on lui demande. Cela aussi, c'est mourir à soi, parce que je ne suis plus au centre. C'est l'autre, c'est plus moi, et Dieu s'occupe de moi. Voilà, je vous ai rappelé un petit peu tout ça ici. Donc, il y a toutes ces circonstances de la vie qui nous paraissent tellement banales, mais qui sont en fait des occasions de laisser grandir Christ en nous, que sa lumière puisse jaillir de plus en plus à travers nous. Parce que l'épreuve, ces situations-là, ces moments difficiles, en fait, sont toujours une occasion de grandir. Si on vit toutes ces épreuves et qu'on ne veut pas lâcher, ben ça, on va avoir simplement de la douleur et on va vivre ces choses-là pour rien du tout, simplement pour souffrir. Mais si nous laissons Jésus tenir le volant, l'épreuve va devenir une occasion de grandir. Une tentation peut devenir une occasion de choisir, par exemple, la fidélité. Une injustice peut devenir une occasion de ressembler davantage à Jésus. Être frustré par quelque chose, ça peut être une occasion de mourir encore à soi-même. Une attente dans une salle d'attente qui dure, ça peut être encore l'occasion, voilà, de voir, Seigneur, donne-moi ta patience, d'user de cette patience que Jésus nous a donnée. Un manque dans quelque domaine que ce soit peut encore nous montrer que Dieu, en fait, me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Ce n'est pas que Dieu aime nous voir souffrir, hein. Ce n'est pas ça, mais c'est que Dieu peut utiliser tout ce que nous traversons pour former Christ en nous. Il faut que nous en ayons conscience. Former Christ en nous, ça a plus de valeur que notre bien-être, vous savez. Ce que Dieu a fait en nous, c'est tellement précieux. Et parfois, je pense qu'on passe à côté, on est ignorant de ce que Dieu est en train de faire en nous. C'est comme si un enfant, vous lui donnez un billet de 100 euros et puis des bonbons. Qu'est-ce qu'il va choisir, l'enfant ? Il va choisir des bonbons parce qu'il n'a pas conscience de la valeur du billet. Et souvent, on marche avec Dieu comme ça, on n'a pas conscience de ce que Dieu est en train de faire en nous. Qu'il est en train de former un disciple, il est en train de former un homme de Dieu, il est en train de former quelqu'un qui va révolutionner sa génération, quelqu'un qui peut amener la consolation, quelqu'un qui va avoir un impact, pas sur cette terre simplement, mais jusque dans l'éternité. C'est ça que Dieu est en train de faire. Donc, ne voyons pas toutes ces choses comme négatives, mais cherchons la pensée de Dieu. Dans Jacques 1,12, il est dit « Heureux heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. » Et dans Hébreux 12, Jésus, il a accepté la croix parce qu'il regardait au-delà de la souffrance. Il regardait la joie qui lui était réservée. Donc la question, en fait, c'est qu'est-ce que cette situation est en train de produire en moi ? Est-ce qu'elle produit de l'amertume ? Ou est-ce qu'elle peut m'amener davantage à ressembler à Jésus ? Parce que c'est ce que Christ veut pour nous, lui ressembler. Donc se poser cette question chaque fois qu'on traverse une épreuve, chaque fois qu'on est dans un moment douloureux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ça en moi ? Je ne crois pas que je dois le vivre en vain. Je ne crois pas que je dois le vivre simplement pour souffrir. Je crois que tu as un plan derrière. Comme Joseph a vécu toutes ces souffrances, vous savez, vendu par son frère, accusé à tort, mis en prison. Dieu est en train de former un homme. Il est resté accroché à Dieu. Il a vu sa gloire. Cherchons à découvrir dans chaque chose que nous vivons ce que Dieu veut faire en nous. Parce qu'il a le contrôle de tout. Il connaît toutes choses. Et nous sommes dans ses mains. Il veut notre bien. Alors, voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher le volant ? Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être en voiture avec quelqu'un, côté passager. Et vous n'êtes pas tranquille, en fait. Vous n'arrivez pas à vous reposer. Vous n'arrivez pas à vous détendre. Même sur un long trajet, vous n'allez pas fermer l'œil. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en paix. C'est impossible de vraiment se reposer. Simplement parce que la manière dont cette personne conduit, elle ne vous rassure pas vraiment, en fait. Pourquoi ? Parce que le manque de confiance nous empêche d'être dans le repos. Quand je ne fais pas confiance à celui qui conduit, je reste attentif. Je regarde la route. Je surveille les virages, je regarde le rétroviseur quand il double, je me demande s'il va freiner à temps. Ce n'est pas vraiment la paix. Et donc si je refuse en fait de me laisser conduire ou si j'ai du mal, c'est souvent parce que je n'ai pas confiance en la personne qui prend le volant. Je me dis, moi je conduis mieux, moi je sais où je vais, je connais cette route. Mais si on imagine, par exemple, je suis avec quelqu'un et je découvre que celui qui est au volant connaît en fait la route beaucoup mieux que moi, qu'il sait exactement où il va, qu'il maîtrise parfaitement le trajet, alors là, je peux commencer à me détendre et à dormir un peu si besoin. Je peux me laisser conduire sereinement. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Lorsque je commence réellement à connaître Dieu, à être émerveillé quotidiennement par lui, alors lâcher le volant va devenir de plus en plus facile. Confier le volant à Dieu sera plus simple. Parce que je sais que celui qui me conduit, qui va conduire ma vie, il m'aime, premièrement. Il est sage. Il connaît toutes choses. Il est bon. Il est saint, il sait où il m'emmène. Et même si je ne comprends pas toujours les détours qu'il va prendre, je peux lui faire confiance. Le problème n'est donc pas seulement de savoir si je suis capable de lâcher le volant, mais est-ce que je fais suffisamment confiance à celui qui veut conduire ma vie ? Et la solution, donc, c'est grandir dans la connaissance de Dieu. Vous savez, c'était la prière de Paul. Il priait pour qu'il grandisse dans la connaissance de Dieu. Et nous avons besoin, pour lâcher notre vie, pour vivre vraiment ce que Dieu veut qu'on vive, de grandir dans cette connaissance. C'est pour ça qu'on nous encourage à prendre du temps avec lui, qu'on nous encourage à lire sa parole. Ce n'est pas pour faire un exercice religieux, c'est pour apprendre à le connaître, pour que ma vie lui soit totalement confiée à 100%. Et que j'arrête sans cesse de remettre les mains sur le volant pour mettre des coups de volant dans le fossé. Je le laisse conduire ma vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque je laisse Jésus conduire? Je vais conclure avec ça. Ben évident, au début, comme je vous le disais, ce n'est pas évident. Mais peu à peu, plus on va le laisser conduire notre vie, plus on va découvrir les bénéfices de cette mort à nous-mêmes. Parce que Jésus, il ne nous demande pas simplement de mourir à nous-mêmes pour nous priver. Il veut nous conduire vers une vie meilleure. Une vie dans laquelle Christ peut grandir en nous, comme je le disais. Une vie dans laquelle le fruit de l'Esprit va pouvoir se développer. Une vie dans laquelle mon caractère va être enfin transformé. Vous savez, on cherche souvent à se transformer nous-mêmes, à faire des efforts. Je dois être plus patient, je dois être plus patient. Mais Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et beaucoup vont se fatiguer. La vie, elle coule naturellement. Vous savez, un fruit, il pousse naturellement parce qu'il y a la sève qui monte, tout se développe. Si je suis collé à Jésus, la patience, par exemple, va venir naturellement. Ce n'est pas par nos forces humaines. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien. Laissez-moi faire. Restez accrochés. Demeurez dans ma parole. Demeurez avec moi. Obéissez simplement à ce que je vous dis. Et continuez. On ne peut pas produire ce fruit charnellement. On va se fatiguer. Et beaucoup de chrétiens sont fatigués, sont épuisés à cause de ça. Ils veulent le fruit, mais ne veulent pas la relation avec Jésus. Ça ne peut pas marcher. Et on se fatigue. Progressivement, donc, le péché va avoir moins de prise sur nous. On va découvrir aussi, quand on meurt à nous-mêmes, c'est magnifique, une vraie liberté. Parce que quand je suis mort à moi-même, eh bien, je ne suis plus, ma vie n'est plus déterminée par les circonstances extérieures et par les autres. Ce n'est plus les autres qui vont faire ma météo. C'est Dieu qui me donne la joie et la paix. Quelqu'un me critique, cela peut me faire mal, mais cela ne va pas définir qui je suis. Quelqu'un ne m'aime pas, cela peut être difficile aussi, mais je n'ai pas besoin de vivre pour obtenir son amour. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Jésus m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Je dois lâcher les baskets aux autres, dire « aime-moi, aime-moi, aime-moi ». Non ! J'ai l'amour de Dieu, le plus grand amour. Celui qui a tout créé, celui qui a donné sa vie. Cet amour vient combler mon cœur. Je n'ai plus à courir après les autres. Quelqu'un réussit mieux que moi ? Alléluia ! Je peux me réjouir pour lui. Quelle liberté ! Ne plus être toujours regardé à son nombril. Je subis une injustice. Je peux remettre en paix ça entre les mains de Dieu. Comme je dis, ce n'est plus les autres qui vont définir mon état, si je suis heureux ou pas, si je suis aujourd'hui content ou pas. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit bonjour qu'on... Non, tout est en Dieu. C'est lui qui m'a rempli de son amour. Et quand on va vivre de cette manière, eh ben, les autres vont le voir forcément. J'entendais une interview d'Auderset ce matin. Il expliquait comment témoigner et il disait... Dans les familles, c'est bon, tout le monde sait que vous êtes chrétien, arrêtez de les assommer. Maintenant, vivez dans votre famille en tant que disciple. C'est ce que les gens ont besoin de voir. Des gens renouvelés dans leur caractère. Des personnes qui vont pardonner. Des personnes qui vont servir sans rien attendre en retour. Des personnes qui vont rester fidèles. Des personnes qui vont pouvoir traverser des épreuves et rester dans la foi. Et des personnes qui ne vivent plus uniquement pour elles-mêmes. C'est ça que le monde attend, c'est ça que nos familles attendent de voir. C'est pas qu'on leur explique la Bible de Genèse à Apocalypse. Ça va venir après peut-être. Mais pour le moment, ils ont besoin de voir des chrétiens, des disciples de Christ. Et ce disciple de Christ, ils vont se montrer si on laisse Jésus conduire nos vies, simplement. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, je te bénis parce que tu as changé nos vies, tu as transformé nos vies. Tu t'es révélé à nous, tu es venu nous chercher. Mais Seigneur, tu n'as pas fait que nous pardonner, nous justifier. Tu veux nous aussi nous emmener dans ce chemin glorieux où tu veux nous conduire à ta ressemblance. Quel amour pour nous tu as, Seigneur. Quelle joie de marcher avec toi. Quelle joie de te suivre, Seigneur. Je te prie que chacun de nous, ce matin, nous puissions, ce soir ou demain, nous mettre devant toi, et te dire, Seigneur, conduis ma vie. Conduis, je te laisse faire. Seigneur, maintenant, je veux obéir. Je veux t'écouter et obéir. Petite chose que tu me demandes pour recevoir la suite. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Amen.